J'avais le sentiment d'être un tout petit pion dans une grosse mare immense que je contrôlais pas. J'avais envie en fait de quelque chose de plus flexible, qui me ressemble plus, et de choisir en fait avec qui je travaille, comment je travaille, etc. J'ai quitté mon boulot, j'ai fait ma reconversion, j'ai entamé le campus et j'ai ouvert mon entreprise en free. J'ai l'impression d'avoir fait 4 ans en 2 ans en fait, d'avoir gagné énormément de temps et d'expérience. Je vais avoir un chiffre d'affaires entre 7000 et 8000 peut-être par mois. J'ai fait vraiment un voyage sur le nord de la Thaïlande, je suis allé une semaine au Cambodge. C'est un peu l'Eldorado de Digital Nomad, enfin, il y en a partout ici. Je gère en fait mon temps et quand est-ce que je travaille. Donc ça, c'est très confortable. Je pense que si on a le feeling et qu'on a l'envie foncièrement de changer sa vie, de se reconvertir, bah, il faut se lancer, quoi.
Nous, c'est Clem et Mimu du blog et de la chaîne YouTube Voyage en roue libre. On aide les créateurs à se lancer en indépendant et à vivre confortablement de leur activité sans stress, et ça, de n'importe où dans le monde. Puisque nous sommes nous-mêmes digital nomades et freelance en création. Abonne-toi pour devenir un créateur nomade.
Et si tu as envie de bien démarrer en freelance, que ça te fait peur et que tu sais pas par où commencer, rejoins le bootcamp des créateurs nomades pour construire ton tremplin et faire ta transition pro sans risque.
Bienvenue Nico dans le podcast des créateurs nomades. Ça fait super plaisir de t'avoir avec nous puisque tu es membre du campus des créateurs nomades et là tu vis ta best life de créateur nomade en Thaïlande et j'aimerais bien qu'on découvre un petit peu ton parcours puisque tu as fait une reconversion professionnelle. Donc je te propose de te présenter en 3 phrases pour nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais actuellement.
Eh bien, du coup, moi, c'est Nico. J'ai travaillé auparavant 6 ans dans une entreprise dans le secteur du bâtiment où j'étais conducteur de travaux. Et en fait, c'est un secteur qui me plaisait pas, qui me passionnait pas. Contrairement à mes collègues qui avaient les yeux qui brillaient quand ils parlaient de béton, moi, c'était pas du tout mon cas. Et du coup, j'ai voulu entamer une reconversion pro. Donc, je me suis renseigné. J'ai fait des bilans de compétences auprès de l'APEC qui m'a aidé, du coup, à mettre en place un peu mes idées, à faire du tri dans ma tête. Et j'ai voulu en fait me reconvertir dans un secteur qui soit à la fois créatif et à la fois digital. Donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé le métier de UX UI design qui collait parfaitement en fait à ma personnalité et à ce que je voulais faire. J'ai entrepris une reconversion, enfin des formations en fait pour me diriger vers cette voie. Donc j'ai fait une école, une remise à niveau de 6 mois auprès d'un campus, donc qui était général. C'était vraiment plus une remise à niveau générale dans le secteur du digital. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 6 mois avec une formation, enfin avec un stage de 6 mois à la fin.
Quand tu dis que t'étais conducteur de travaux, c'est-à-dire que tu conduisais les engins ou t'étais plutôt la personne qui planifiait la construction?
Non, ouais, en fait j'étais plus dans la partie planification, organisation de chantier. Donc en gros, c'est moi qui négociais les prix avec les sous-traitants, avec les entreprises sous-traitantes pour faire les travaux, qui organisait les plannings, qui manageait sur place, qui vérifiait la qualité des équipes, voir ce que les ouvriers font, etc. Donc c'est plus du management, du pilotage.
Et pour toi, est-ce que quand tu as fait ton bilan de compétences, tu avais envie d'être indépendant, salarié? C'était quoi ta vision des choses là-dessus?
C'est vrai que moi j'avais toujours vécu du coup le salariat. C'est quelque chose qui me dérangeait un peu parce que bon, j'étais dans une grosse boîte, donc déjà j'avais le sentiment d'être un tout petit pion dans une grosse mare immense que je contrôlais pas, avec un millefeuille de patron, etc. Et ça, c'était pas quelque chose qui m'attire. Bon, ça peut correspondre à certaines personnes, mais en tout cas pas à moi. Et c'est vrai que j'avais besoin et le sentiment que j'étais prêt à devenir free. Bon, pour ça, il fallait que j'acquière des compétences et voilà, dans un domaine particulier, c'est normal. Donc c'est pour ça que j'ai repris après des formations. Mais oui, c'était un objectif de quitter le salarial, de plus être dans cette optique de CDI avec des horaires fixes où on m'oblige à venir à une certaine heure et à partir à une certaine heure, alors que dans mon ancien métier, bah, j'avais fini mon travail à 4 heures, tu vois. Donc partir à 4 heures dans le secteur du bâtiment, c'est assez mal vu, bon, dans d'autres boîtes aussi, hein, mais dans ce secteur-là qui est hyper traditionnel, voilà. Et j'avais envie en fait de quelque chose de plus flexible, qui me ressemble plus, et de choisir en fait avec qui je travaille, comment je travaille, etc. Ça, c'était hyper important pour moi, ouais, au moment de la reconversion.
Et justement, est-ce que tu as eu un jour où ça a été un déclic pour toi, ou c'est arrivé vraiment tranquillement cette envie et ce besoin de changement, ou tu as eu un jour, tu t'es réveillé le matin, tu as dit non, j'en peux plus, je veux changer?
Je pense que c'était progressif, en fait, vu que c'est un secteur qui me plaisait pas tellement, en fait, j'étais pas vraiment à ma place dans cette entreprise, donc je changeais de poste assez régulièrement, enfin tous les 2 ans, j'évoluais en poste pour voir autre chose. Et en fait, je me lassais assez vite. Et à partir du 3e poste, j'ai dit non, mais là, il faut arrêter. En fait, je vais pas tous les 2 ans changer de métier dans cette entreprise-là pour découvrir d'autres choses. En fait, je m'ennuie. Il faut que je m'en aille, en fait. Et c'est juste que l'ennui ne vient pas des tâches qu'on me donne. C'est juste le secteur, en fait, qui m'intéresse pas. Donc, ouais, en fait, c'est venu plutôt progressivement. C'était plutôt un ras-le-bol à partir du 3e métier où là, je me suis vraiment ennuyé. Je me suis dit là, il faut vraiment que je bouge parce que Je vais sur la trentaine et voilà, il est jamais trop tard pour faire une reconversion. Mais j'avais pas envie de la faire non plus trop tard et de la faire à 50 ans ou 60 ans. Voilà, ça aurait été un peu cuit, quoi.
Ça, tu l'as fait donc en parallèle de ton emploi ou tu avais déjà posé ta DEM à ce moment-là?
Non, ça, je l'avais fait en parallèle de mon emploi, ouais. Parce que, mine de rien, je critique mon ancienne vie, mais j'avais quand même pas mal d'avantages, un très bon salaire, une voiture de fonction. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages qui sont aujourd'hui, enfin, que je n'ai plus aujourd'hui. Mais oui, du coup, c'était difficile pour moi de démissionner et d'ensuite réfléchir. Du coup, j'ai fait en fait mes démarches de l'APEC en parallèle. Et c'est là aussi que j'ai découvert votre Instagram et la chaîne YouTube, puisque en parallèle de l'APEC, j'ai regardé sur les deux fronts. En fait, j'ai fait des recherches à la fois sur l'UX design et à la fois sur le côté freelance pour voir si les deux en fait matchaient, si je me trompais pas, si en gros je devais juste être UX UI salarié ou UX UI freelance. Et en fait, sur la partie freelance, ouais, je suis tombé du coup sur ta chaîne, sur votre chaîne. Alors, en fait, j'ai un peu stalké votre chaîne au début. J'ai un peu regardé ce que vous disiez, etc., les conseils que vous donniez et tout. Ça me plaisait bien. Puis le mood, voilà, ça a accroché aussi. Je suivais d'autres comptes aussi, mais la personnalité me plaisait pas forcément ou ça collait pas forcément avec mon activité aussi. Et là, le fait que ça soit voilà dans le digital, créateur nomade, etc., et puis c'est un mood un peu voyage, cool, d'entraide et tout, ça me plaisait bien. Et voilà, et du coup, j'ai que regardé, j'ai pas fait de bootcamp. Et c'est seulement à la fin de mes 6 mois de reconversion où là, j'ai fait le premier bootcamp. En fait, j'ai fait mes 6 mois de remise à niveau et à la fin, j'avais un stage à effectuer. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai suivi le bootcamp. C'était en plein dans ma recherche de stage. Parce que je devais trouver un stage de 2 mois pour valider ces 6 mois de remise à niveau. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai eu mon premier client un peu grâce à toi, un peu grâce à vous. En fait, j'ai suivi ce bootcamp et à la fin, j'étais chaud patate pour me lancer en free, malgré le fait que j'ai pas d'expérience et qu'il me manquait plein de choses, etc. Je me suis dit, j'ai quand même envie d'avoir des petits clients à côté pour acquérir de l'expérience, aussi pour toucher un peu au freelancing. Et en fait, pendant ma recherche de stage, j'avais passé un entretien auprès d'un agent immobilier qui travaillait dans mon ancienne boîte. C'était un peu le coup de foudre professionnel parce que voilà, on a travaillé dans la même entreprise, etc. Donc il y avait une confiance qui s'était instaurée avec ce client, avec cette personne-là. Et moi, je voulais faire un stage chez lui, mais sa mission, si tu veux, c'était refaire son site internet. Et sur 2 mois, en fait, je trouvais que c'était trop long, enfin, par rapport à son site. C'était vraiment un site vitrine hyper simple. Donc je me suis dit, en fait, en 2 mois, je vais m'ennuyer, quoi. Donc je n'ai pas donné de réponse tout de suite. J'ai postulé dans une autre entreprise. Donc j'ai fait mon stage dans une autre entreprise. Cet agent immobilier, je l'ai recontacté et je lui ai proposé du coup une mission freelance. Alors que j'étais pas immatriculé, voilà, j'étais à la fin du bootcamp que je venais de faire avec vous. Et j'ai dit, vas-y, j'y vais au culot. Je lui ai dit, voilà, je me vois de le faire en free, j'aurai le temps, etc. Il me dit, ah ouais, vous aurez le temps, vous êtes sûr, parce que vous avez un stage, etc. J'ai dit, oui, pas de souci. Enfin, si vous n'êtes pas pressé, que vous êtes flexible, etc., il y a moyen que ça marche. Et au final, il a accepté. Du coup, je me suis grouillé d'aller à l'URSSAF pour ouvrir mon entreprise. Et voilà, et c'était parti, quoi. Et du coup, j'étais trop content. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai rejoint le campus. Parce
Trop
que
cool.
je me suis dit,
Tu t'es dit, ok, j'ai eu mon premier client avec le bootcamp, alors
ouais.
j'y vais avec le campus.
Je me dis, ok, ça marche, tu vois. Enfin, en tout cas, j'ai suivi les conseils et puis ça m'a reboosté. Donc, je me suis dit, allez, let's go, quoi. Enfin, je me suis lancé, quoi.
Et
Et je regrette
ensuite, t'as enchaîné. Trop cool. Du coup, t'as enchaîné avec une alternance, c'est ça? Ou
Ouais, et du
l'alternance
coup,
était.
c'était après, ouais, du coup.
Ok, d'accord. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, t'as ton premier client, t'as même pas commencé ton alternance, tu suis le bootcamp, bam!
C'est ça.
Chaud patate. Et après, du coup, t'as entamé une alternance en UI/UX, c'est ça?
C'est ça. Donc, du coup, j'ai entamé une alternance en UX design en master sur 2 ans en alternance. Alors, c'était une mission de refonte de site, c'était pas vraiment une refonte, enfin, c'était pas vraiment une mission du UX design pur. C'était plus de l'intégration web sur WordPress, enfin, web designer finalement. Mais bon, c'était hyper intéressant et c'était hyper cool à faire.
Est-ce que
Et
tu pourrais
donc.
un petit peu expliquer ce que c'est que l'UX design pour les personnes qui nous écouteraient et qui savent pas du tout à quoi ça correspond?
Ouais, en fait, UX, ça veut dire en anglais user experience. C'est rendre l'expérience des personnes, enfin, rendre la vie des personnes qui vont utiliser des applications ou des sites internet plus simple, plus fluide. Par exemple, je sais pas, quand tu vas utiliser Deliveroo, par exemple, pour te faire livrer un plat chez toi, et ben, mon métier, en fait, c'est de rendre tout le processus de la recherche de plat jusqu'à la livraison de chez toi, le plus agréable possible, qu'il n'y ait pas de friction, qu'il n'y ait pas de moment où tu vas te dire je veux quitter ce site absolument parce que c'est mal fait, etc. Donc après, il y a plusieurs niveaux là, si je te parle du e-commerce, mais ça pèse sur beaucoup, enfin sur d'autres types d'applications, sites, par exemple des applications métiers aussi, donc des applications que finalement le grand public ne verra jamais. Là, par exemple, le client que j'ai eu, qu'on en parlera après, c'est ça, c'est en fait c'est dans le milieu de l'assurance et c'est pour les assureurs en fait, c'est pas pour des particuliers. Et souvent pour ce type de projet, il y aura des plus gros moyens et ça sera des applications plus complexes avec des méthodologies beaucoup plus poussées quoi. Mais voilà, en gros c'est ça pour comprendre ce que c'est. Et l'UI design, parce qu'on parle souvent de UX UI. UI, en fait, c'est User Interface en anglais. Donc, c'est la partie visible, en fait, de l'application ou du site. Donc, la partie ergonomique, visuelle, avec l'identité graphique, etc.
Du coup, toi, tu fais juste UX ou tu fais les deux? UX, UI.
Alors, moi, je fais les deux, ouais. Je fais UX, UI. Souvent, dans le métier, on est un peu à cheval entre les deux. Même si quelqu'un est 100% UX, on va quand même lui demander une appétence quand même en UI. Ou inversement. Après, tu as des purs UX qui font que de la recherche, qui touchent jamais limite le PC. Ça existe aussi, mais c'est un peu plus rare. Donc voilà. Mais moi, ouais, je fais les deux, du coup.
D'accord. Donc, si on reprend, tu quittes ton entreprise dans les travaux, t'enchaînes avec une mise à niveau et boum, tu trouves une alternance. À quel moment t'as démissionné? C'est au moment où t'as fait ta remise à niveau?
Juste avant, en fait, parce que j'ai fait Transition Pro, qui est un dispositif de l'État. Je sais plus si c'est encore en là aujourd'hui, mais en gros tu montes un dossier et tu peux démissionner du coup et toucher tes allocations chômage, c'est plutôt pratique, et suivre cette formation. Donc il faut remplir tout
D'accord.
un plein de paperasses et écrire plein de lettres, mais au final voilà, ça marche. Et du coup ma formation a été financée et j'ai pu toucher du Pôle emploi pendant ma formation.
Excellent. Et ensuite,
Ouais.
donc on arrive sur la partie alternance. Donc pour toi, l'alternance, pourquoi c'était une bonne solution?
Parce que ça me permettait de mettre un pied dans l'entreprise. Moi, l'alternance, je l'ai déjà testé quand j'étais dans le secteur du bâtiment. Je trouvais que ça marchait hyper bien. Même pour se faire recruter derrière, enfin, c'est hyper cool. Tu as moins de pression que de te lancer directement en CDI parce que, enfin, en recherche d'emploi, alors que tu as peu d'expérience. Parce que là, bah, du coup, tu es en apprentissage. Donc, du coup, voilà, tu peux quand même être en contact avec des clients, avoir des missions hyper intéressantes, mais sans la pression d'un CDI. Voilà. En étant apprenant. Et ça permet d'élargir son réseau aussi. Moi, je trouve que en alternance, là, j'ai eu beaucoup plus de réseau en alternance qu'aujourd'hui, par exemple. Là, aujourd'hui, en tant que freelance, c'est beaucoup plus calme socialement. Après, je le travaille, mais quand tu es en alternance, bah, du coup, tu as toute ta promo, tu as les intervenants aussi, qui sont des professionnels. Du coup, tu peux réseauter avec eux aussi. Et puis, bah, tu as ton entreprise d'alternance. Donc je trouvais ça cool. Et puis c'est moins culpabilisant aussi de se dire bah à la fin du contrat d'alternance, ciao, je me lance en free, tu vois, plutôt que de te faire embaucher en CDI et puis finalement de faire un bébé dans le dos à l'entreprise et de dire bah je m'en vais au bout d'un an quoi.
Et du coup, pendant cette année-là, est-ce que tu as continué à avoir des contrats?
Ouais, alors j'ai eu des tout petits contrats, principalement des potes en fait. Des potes. Il y en a que j'ai fait gratos, il y en a j'ai dit bon, il faut un peu payer quand même. Donc c'était pas pour l'argent, là c'était plus pour m'entraîner, pour voilà, c'était donnant-donnant quoi.
Du coup, à ce moment-là, tu as été dans le campus. Pourquoi c'était important pour toi de rejoindre le campus alors que tu avais déjà eu ton premier client? Qu'est-ce qui te disait que ça allait pouvoir t'aider plus loin par rapport au bootcamp, par exemple?
En fait, déjà le côté administratif, tu vois, tout ce qui est comptabilité, comment ouvrir enfin, comment gérer en fait ton entreprise de freelance. Ça, moi, c'est un truc qui m'angoisse, tu vois. Une phobie administrative. Ouais, j'avais besoin d'avoir des tips en fait, tu vois, de gagner du temps, d'avoir une longueur d'avance. J'avais pas envie d'essuyer les plâtres parce que tu disais aussi que bah, tu avais fait des erreurs aussi quand tu t'es lancé, il y a des trucs, enfin, voilà, t'en as parlé. Et je pense qu'on en fait tous, même moi j'en ai fait encore il n'y a pas longtemps. Mais en fait, ça permet d'éviter les grosses erreurs qui peuvent te dégoûter en fait du métier. Et j'avais pas envie de les essuyer moi-même en fait. Je me suis dit bah autant si quelqu'un les a fait et qu'il les partage avec gentillesse, tu vois, autant les prendre. Et puis ouais, ça permet aussi de rejoindre une communauté, de pas être tout seul aussi, tu vois. Parce que quand tu te reconvertis, ça demande beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de personnes autour de toi dans mon entourage aussi qui peuvent te mettre des doutes. Tu vois, dans la tête, Est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que c'est vraiment la bonne voie, etc. Bah là, au moins, tu te sens moins seul et tu te dis, bon, bah, en fait, oui, c'est la bonne voie. Il faut juste que je me fasse confiance. Et puis voilà, quoi. Donc, ouais, c'était plus avoir des bons conseils et avoir un entourage, quoi.
Qu'est-ce que t'en as tiré, les grandes leçons que t'as tirées du campus jusqu'à maintenant, c'est quoi?
Bah déjà, de ne pas se brader au niveau des prix, de ne pas faire un TJM trop petit, parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt de nature à être trop gentil, à être trop consensuel, à vouloir trouver une solution à tout prix. Et c'est pas forcément bon si un client, en fait, bah, a juste pas l'argent ou pas envie de payer. Le côté argent, ça m'a vachement aidé déjà à me faire déculpabiliser de ça. Ce gros volet-là, ouais, j'ai eu un gros travail là-dessus. Pareil, comment gérer bah, ses objectifs financiers, tu vois, moi j'en avais aucune idée. Toi, tu donnes un tableau, par exemple Excel, avec plein de. Où tu rentres tes dépenses, tes charges, tes objectifs, etc. Et là, en fait, on voit directement en fait, ce que tu peux fixer en prix ou pas. Donc, ouais, le côté budget et financier, c'était un pôle hyper important. Bah, tout ce qui est ouais, les red flags, tu vois, comment repérer un client vampire, ce genre de choses, tu vois, là, il y a pas longtemps, tu vois, j'en ai évité un et j'ai pensé à toi. Parce que je pense qu'à l'époque, je serais peut-être tombé dedans, tu vois, je l'aurais fait comme ça, en mode, bah, ouais, ok, on travaille ensemble. Et là, en fait, bah, je lui ai dit non, parce que juste, je le sentais pas du tout. Et ça, bah, c'est un de tes précieux conseils aussi, là-dessus.
Et tu fais partie d'un équipage, il me semble, en ce
Ouais,
moment,
j'en ai fait un il y a pas
Chauder, ouais.
longtemps. Ça s'est terminé il y a pas longtemps. C'était hyper cool. En fait, je me suis inscrit comme ça. J'avais un peu des a priori en me disant, bah, je sais pas trop ce que ça va m'apporter réellement parce que mes objectifs étaient quasiment un peu atteints. Tu vois, là, je suis dans une sorte de routine. Et au final, c'était hyper enrichissant. C'est vachement boosté. Ça m'a forcé à avancer sur ma chaîne YouTube parce qu'elle est un peu à l'arrêt en ce moment. Donc là, ça m'a remis le pied à l'étrier là-dessus. Et puis, j'ai fait des rencontres hyper sympas. Donc c'est cool. Franchement, je regrette pas.
Justement, on parle de ta chaîne YouTube là parce que on ne l'a pas dit, mais tu as lancé une chaîne
Oui.
YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler de la genèse de cette chaîne YouTube, ce que ça a pu t'apporter, c'était quoi tes blocages avant de la lancer? Qu'est-ce que ça joue comme rôle dans ton activité?
Bah, j'ai lancé cette chaîne parce que bah, c'était un de tes conseils du coup d'avoir un projet perso. Donc j'ai choisi d'ouvrir une chaîne YouTube parce que j'avais envie de transmettre quelque chose en fait. Enfin, je suis tellement passionné par l'UX/UI et j'en ai tellement appris que j'avais envie de donner en fait. Et du coup, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube un peu, enfin. À but pédagogique pour des novices ou des personnes en reconversion comme moi je l'ai été en fait, pour présenter le métier, présenter concrètement ce que c'est et aller un peu plus dans le détail après par la suite. Parce que bah, c'est un métier qui reste neuf, l'UX/UI, parce que il y a plein de contenus qui sont en anglais aussi, donc bah, moi il n'y a pas de problème, mais il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec l'anglais ou ça pose problème. Et le fait d'avoir des contenus français, bah, il y en a peu et je trouvais ça assez cool d'en faire. Et voilà, et du coup, ça s'appelle UX Time. Donc, ça a quelques mois. Donc là, les premières vidéos, c'est vraiment du tout simple. C'est vulgariser, en fait, vraiment le métier, expliquer dans les grosses lignes l'émission et ce que c'est. Et là, prochainement, je vais tourner une vidéo. Donc, bah, dès que je rentre de Thaïlande, je vais interviewer trois experts en UX Research. Donc, eux qui, finalement, sont que dans la partie UX. Pour parler bah, de ce volet-là qui est hyper intéressant dans le métier. Donc, je suis hyper content. Là, j'ai mes trois experts. Ils m'attendent. Les dates sont fixées. Donc, je peux plus reculer. Voilà. Donc, ça sortira dans 2 mois, je pense, le temps que je rentre, que je finis et tout, que je fasse le montage.
Comment tu te sentais avant de tourner tes premières vidéos?
Ah, bah, horrible. Hein. Enfin, j'avais pas envie. Hein. Enfin, en fait, je me suis dit, bah, c'est un projet qui est cool. Enfin, dans l'idée, en fait, ça me plaisait. Mais de le faire, c'était une catastrophe parce que je me dis, j'aime pas me voir filmer. J'aime pas entendre ma voix. J'aime pas. Ouais, et puis c'est se mettre à nu un peu, tu vois, devant les autres. Tu te mets à nu aux critiques aussi. Bon, j'en ai pas eu, mais pas encore. Finalement, tu te rends un peu plus vulnérable aussi quand tu te montres en vidéo. Donc, je traînais un peu des pieds, et puis le montage vidéo, moi, j'y connaissais rien du tout. J'en avais fait un tout petit peu, mais c'était pas super chouette. Tout ça mis au bout à bout, je procrastinais quand même à faire cette chaîne YouTube. Et après, on s'est vu à Lyon, à un apéro, je me souviens. Et tu m'as dit, bon, alors, elle sort quand cette chaîne YouTube, etc. Et je dis, bon, ok, faut vraiment que je le fasse cette chaîne. Donc, la première vidéo, c'était horrible. J'ai mis 40 heures, je crois, pour la sortir en montage, hein, parce que rien ne me plaisait, je l'ai refilmé 10 000 fois, etc. Alors que c'est la plus nulle. Hein. Et maintenant, voilà, je les tourne hyper, hyper facilement, le montage, c'est plus un problème, et j'ai hâte en fait de les tourner. C'est juste que là, il faut quand même du temps, même si je mets plus 40 heures, ça met quand même une bonne dizaine d'heures, je dirais, pour faire une vidéo de moins de 10 minutes. Donc il faut trouver le temps, mais ça vaut le coup, enfin, c'est cool. Il y a une bonne communauté, enfin une toute petite communauté qui s'est créée autour de ça, et ils sont hyper cool, donc c'est chouette. Puis
Je
ça
sais qu'il y avait
m'a...
un membre du campus, enfin du bootcamp, dont on a parlé toi dans le live 2, et qui a dit: Ah, mais en fait, je le reconnais. Quand on a parlé de
Ah
ta chaîne YouTube, qui a dit: Ah, mais oui, mais en fait, je suis sa chaîne.
Ah, trop drôle. Waouh, ça y est.
Ça y est, t'es une star.
Devenir influenceur, ça y
Non, mais c'est cool parce que ta chaîne YouTube, elle a quand même bien décollé en quelques mois. T'as quand même, je sais plus combien d'abonnés, mais t'avais des vidéos avec plus de 2 000 vues. C'est quand même un beau succès pour une chaîne qui démarre, donc c'est trop cool. Comment, enfin, est-ce que t'as suivi la formation YouTube dans le campus pour t'aider sur la chaîne?
Ouais, carrément. Ça m'a bien aidé. Il y a eu plein de petits conseils, ouais, des plugins aussi à YouTube pour tout ce qui est référencement, parce qu'en fait, je l'ai découvert, mais il y a du référencement YouTube aussi.
Ah oui.
Et ouais, c'est hyper important. Parce que moi, au début, je postais comme ça, je me dis bon. Okay. Et en fait, ouais, suite à cette formation, ça m'a quand même bien, bien aidé. Et là, d'ailleurs, la vidéo qui a fait le plus de vues, le référencement, il est bien. Tu vois, il est bien, il y a un bon score en suivant les conseils. Donc ouais, ça marche bien, c'est cool.
Est-ce que ça t'a apporté des choses au niveau de tes clients d'avoir la chaîne YouTube? Parce qu'on n'a pas parlé un petit peu là de ce que tu avais fait cette année en termes de clientèle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais. Alors en fait, moi, mon objectif de vie, ça serait pas forcément d'avoir un seul client, mais d'en avoir plusieurs et des différents. Donc j'aimerais un client qui soit plus rémunérateur, donc un gros client qui me prend, on va dire, 60%, 70% de mon temps, qui ne me prenne pas tout mon temps, qui ait quand même un besoin sur du long terme, sur 1 ou 2 ans, pour que ça me sécurise quand même. Et ensuite, 20% plus sur un client lié à de l'enseignement, parce que je donne des cours aussi dans des facs, dans des écoles du digital.
Trop bien.
Donc ça, j'en ai donné juste après la fin de ma reconversion, j'ai donné des cours. Et ça s'est bien passé et tout. Enfin, pour moi, c'était ouf. Je me dis, mais en fait, je suis un peu un imposteur, quoi. Je donne des cours alors que je viens seulement d'être diplômé, j'ai même pas encore reçu mon diplôme, quoi. Donc c'était assez drôle.
Comment ça s'est passé là pour avoir ces projets, enfin ces mandats-là?
Et ben justement, en fait, moi à la base, la chaîne YouTube, je l'ai ouverte en pensant que j'allais choper des clients, mon fameux client rémunérateur. Et en fait, pas du tout. C'est plus les écoles en fait qui m'ont contacté pour cette chaîne YouTube parce que justement, c'est du contenu pédagogique, c'est du contenu hyper simple, etc. Et du coup, j'ai été contacté sur LinkedIn grâce à cette chaîne YouTube, du coup, par plusieurs écoles en fait.
Trop bien.
Donc en fait, je pensais pas, tu vois, genre, je me dis bah ok, ça marche.
Et
La
attends,
cible était pas.
t'avais fait combien de vidéos YouTube juste
Bah,
pour te
même
donner
pas
une idée?
3, enfin 3-4, même pas.
Excellent.
Rien en fait. Et puis je les ai postés, enfin j'ai posté à chaque fois sur LinkedIn, sur le réseau, en taguant en fait les personnes que je mentionne dans les vidéos. Et en fait, c'est là que ça. Enfin, j'ai fait plus de 10 000 impressions sur LinkedIn,
Wow.
sur les publications de ces vidéos-là. Et après, ouais, ça en fait, ça m'a permis d'être plus visible en fait. Donc c'est pas forcément des gens qui ont vu les vidéos ou quoi, ou qui me suivent, mais. Ou ils ont peut-être vu un extrait en fait, je sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont contacté via cette chaîne-là sur LinkedIn. Et j'ai eu ouais, deux écoles qui m'ont contacté comme ça. Et la troisième école, c'est moi par contre qui les ai contactés. C'était l'école bah, en fait, là où j'ai fait mon master. Je leur ai dit bah, j'aimerais
D'accord.
bien donner des cours et ils m'ont dit bah, let's go.
Trop cool. Et alors,
Ouais.
donc on avait 60% pour un gros client, 20% pour l'école, et ensuite, c'était quoi
Et
ta
ensuite, je voulais me
recette?
garder un peu plus de temps, enfin un petit bout de temps pour des petits projets créatifs, enfin des projets un peu plus fun, tu vois, qui sortent un peu de l'enseignement, de l'assurance ou des milieux un peu plus sérieux. Donc là, c'est le cas. Là, j'ai un petit client, c'est une amie d'une amie en fait, qui veut ouvrir une application, qui est hyper cool. Et du coup, bah, je bosse sur cette application-là et je l'accompagne du coup de bout en bout en fait. Donc sur les
Excellent.
maquettes. business plan, comment soulever des fonds, etc. Donc voilà, et ça te permet d'avoir un, voilà, de, c'est un exutoire créatif, quoi. Enfin, ça permet de d'avoir un peu plus
Un
un
laboratoire.
projet un peu plus coloré, ouais, voilà, de faire un peu ses tests, etc. En plus, c'est une cliente qui est pas du tout chiante en termes de délai, ni rien. Donc, en fait, ça prend le temps que ça prend. Donc c'est cool. Et après, les 5% restants, ça serait plus pour de l'associatif. Donc là, j'attends d'avoir la bonne assoce pour refaire les sites. Parce que souvent, les sites d'association, c'est un peu catastrophique, parce qu'ils font ça avec les moyens du bord, quoi. Donc, ça serait de proposer mes services gratuitement pour une assoce, quoi.
Trop cool.
Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore trouvé, mais ouais.
Et du coup, tu
Mais
disais
ça
qu'en
va venir.
2024, là, tu allais avoir quasiment, à part l'association, tu as eu ton gros client?
Ouais, ça va démarrer vraiment quand je vais rentrer du coup de la Thaïlande. En fait, c'est un client pour qui j'ai déjà bossé auparavant quand j'étais en alternance. Et en fait, j'ai été en communication avec un designer qui était dans cette boîte pour une autre branche de cette entreprise. Et quand je suis parti, du coup, je suis pas parti avec ce client-là, au plus grand plaisir de mon entreprise dans laquelle je faisais mon alternance, qui avait peur que je m'en aille avec ce client. Donc je suis parti, donc tout fait pour pas que ça se passe. Je suis parti, je suis passé à autre chose, j'ai passé des entretiens pour d'autres missions. Là, je suis en process de recrutement pour deux autres missions aussi, mais finalement que je vais refuser pour EDF et puis un autre groupe. Ah, et en fait, le designer avec qui je travaillais auparavant m'a recommandé en fait pour une autre branche de cette entreprise-là. Et en fait, ça l'a fait direct quoi. Le patron, il a dit bah écoute, moi ça va, t'as été recommandé. Je sais que tu as travaillé 2 ans pour notre entreprise. Et donc, du coup, il m'a proposé la mission avec un TGM nickel, quoi. Enfin, là, j'ai un TGM à 400. C'est pas du full time, c'est pas du temps complet. Là, rien que ça va me faire 6 000 euros bruts par mois. Donc,
C'est pas mal.
c'est quand même pas mal, tu vois. Je crache pas dessus. Plus les cours que je vais donner, tu vois, ça va me rapporter aussi plus de 1 000 euros par mois aussi par rapport aux cours que je vais donner. Plus la petite mission, le petit client à côté. Donc, ouais, en gros, là, je vais avoir un chiffre d'affaires à peut-être entre 7 000 et 8 000, peut-être, par mois, en 2024. Alors que là, en 2023, je touchais du Pôle emploi, plus les petites missions, mais j'avais pas un salaire, dingue, quoi.
Tu vas arriver sur la fin de Pôle emploi, donc là, tu as vraiment fait le principe de la transition comme on vous recommandait dans le bootcamp.
Pôle emploi, là, il me reste encore des jours. Ce qui est bien, c'est que je peux rester en inscrit sur Pôle emploi. Et même si je gagne un gros chiffre d'affaires, du coup, bah, il m'indemniserait rien. Mais si un jour le client, par exemple, parce que là, c'est un renouvellement tous les 3 mois avec mon client. Donc, c'est assez précaire quand même, parce que bon, au bout de 3 mois, il va me dire ciao. Je pense pas qu'il le fasse parce que ouais, je le connais, etc. Mais voilà, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, du coup, j'aurai toujours le Pôle emploi. Tous les mois, je vais quand même m'actualiser. Et puis, si il y a un mois où je devrais gagner beaucoup moins, ou qu'il y aura moins de besoins, bah, j'aurai quand même Pôle emploi qui me soutiendra, quoi.
Du coup, t'as vraiment une, bah, c'est ça, t'as ton filet de sécurité, quoi qu'il arrive,
Ouais.
t'es bien calé.
Oui.
Et tu disais que t'étais sur des processus de recrutement, c'était sur du CDI ou du freelance pour les autres boîtes?
Du freelance, ouais.
Ok. Donc en fait, même
Mais.
si ça cassait, là, t'as quand même des pistes pour rebondir assez vite au final.
Ouais, c'est ça, ouais. Et sans prospection en plus. J'ai pas cherché. Pas cherché du tout, on m'a contacté.
Et tu sais d'où ils
Donc
viennent?
tant mieux. Ouais, c'est la visibilité, je pense. Enfin, tous les contrats me sont venus sur LinkedIn. Et je pense que c'est les impressions. Enfin, je sais pas en fait, vraiment exactement, mais je pense que c'est les publications de vi mes vidéos YouTube sur LinkedIn qui a fait que j'ai eu beaucoup d'impressions. Et du coup, j'ai popé en visibilité dessus. C'était pas forcément comme je l'imaginais, tu vois. Je pensais qu'on allait me contacter directement sur YouTube, en commentaire ou sur mon site ou quoi. Et en
Ouais.
fait, non, tu vois, c'est par le biais d'un autre média sur lequel je publie ces vidéos qui me fait gagner en visibilité. Donc en fait, c'est important aussi d'avoir une stratégie, je pense, de publication. Quand on ouvre, par exemple, une chaîne YouTube, de ne pas se cantonner à YouTube, quoi.
Quand tu m'as dit que tu voulais lancer une chaîne YouTube sur l'UX design et donner des cours sur l'UX design, je sais pas si c'est ton client idéal, il va être dessus, tu vois, sur YouTube à regarder des cours
Ouais,
d'UX design.
c'est
Parce que
ça.
le
Non.
manager d'une plateforme, il va pas se taper les cours pour savoir comment chercher EDF, comment
C'est
monter,
ça.
c'est quoi les
Mais
principes du UX design. Mais par contre, de les avoir faites et de les avoir publiées, ça monte sur LinkedIn, ça monte ta légitimité en tant que je sais de quoi je
oui.
parle en fait. C'est là où c'est intelligent, c'est que tu as vraiment posté sur les deux, là où il y a ton client idéal. Et bah, sur YouTube, finalement, ça va chercher aussi des gens qui vont, à mon avis, sur le long terme, ça va te créer une crédibilité. Tu vas devenir la personne de référence du domaine. Donc,
C'est ça.
c'est super que tu l'aies mis en place. Et je suis contente de t'avoir un peu bousculé à Lyon et dire hey, Nico, t'en es où?
Oui, t'as bien fait, t'as bien fait.
Et là, t'es parti plusieurs mois en Thaïlande, c'est ça? T'es parti 2 mois?
Je suis parti 2 mois, j'y suis toujours là. Je suis parti le 4 décembre, bah un peu moins de 2 mois, ouais. Je suis parti le 4 décembre et je reviens le 21 janvier.
Donc là, c'était vraiment pour kiffer sur place ou t'as un petit peu bossé à distance?
Ouais, les deux. En fait, la première partie du voyage, c'était plus pour kiffer. Donc là, j'ai fait vraiment un voyage sur le nord de la Thaïlande. Je suis allé une semaine au Cambodge, voir les éléphants, tout ça. Et là, maintenant, je suis dans le sud, je suis sur les îles, d'où ce bronzage magnifique. Donc là, je suis à Copenhague exactement. Donc c'est une île, voilà, au sud de la Thaïlande, et c'est un peu l'Eldorado des digital nomades. Enfin, il y en a partout ici, parce que bah il y a une bonne connexion, la vie est pas très chère. Bon, c'est sur les îles, c'est quand même plus cher que sur le reste de la Thaïlande, mais pas comparé à la France, c'est pas cher. On peut faire la fête, il y a les plages, on peut travailler, on peut faire du sport. Enfin voilà, c'est hyper cool en fait. Et les gens, ils ont une bonne mentalité aussi, donc c'est sympa. Et donc là, oui, pour la deuxième partie, là, ça fait 15 jours du coup que je travaille. Enfin, que je travaille. Je travaille 2-3 heures par jour pour préparer mes cours en fait que je vais donner.
Trop
Donc
bien.
je suis pas en contact en direct avec un client ou quoi. Donc je gère en fait mon temps et quand est-ce que je travaille. Donc ça, c'est très confortable. Parce que mon client en fait que je vais avoir pour une question de cybersécurité, il peut pas travailler avec des digital nomades en Asie. Il m'a dit pas de souci pour faire du digital nomade, mais plus en Europe. Donc
Bah c'est déjà pas mal, hein.
voilà.
T'as déjà une bonne dose de destination en Europe, entre le Portugal, l'Espagne.
Voilà.
Si t'as envie de faire du ski, tu peux aller en Bulgarie, en Autriche, en France.
C'est ça. Du coup,
Il y a quand même plein.
je pense que j'irai au Portugal et puis voilà.
Ouais, non mais c'est cool, hein. Puis ça, en plus, l'avantage, hein, on va pas se mentir, c'est le décalage horaire. Des fois, c'est pas
Carrément.
toujours facile de le gérer. Donc là, si t'es sur le même créneau horaire que ton client, c'est vraiment chouette. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer et qui hésiterait à faire cette reconversion? Parce qu'on a plein de personnes qui nous disent, je vais me former en entrepreneuriat, donc éventuellement rejoindre le campus ou vraiment me creuser sur la question de l'entrepreneuriat une fois que j'aurai fini mes cours, en fait, ma nouvelle formation. Tu leur réponds quoi aux personnes qui disent qu'il faut attendre qu'ils aient le diplôme ou la certification, qu'ils aient fini leur formation sur cette partie-là?
Faut d'abord avoir la vision de ce que tu veux faire avant de tout plaquer, etc. Enfin, je pense que si t'es vraiment paumé, évite de démissionner, parce que tu peux être paumé pendant 1 an ou 2 ans, en fait. Ça peut être hyper long. Donc c'est important de se faire accompagner soit en parallèle de son métier pour avoir une ligne directrice et savoir à peu près où tu veux aller avant de tout plaquer. Ça serait un peu le conseil que je donnerais. Mais en fait, non, enfin, moi, j'ai fait plein de trucs en même temps, du coup. Enfin, j'ai quitté mon boulot, j'ai fait ma reconversion, j'ai entamé le campus et j'ai ouvert mon entreprise en free. Donc certes, ça a été du boulot et ça m'a pris beaucoup de temps, etc. Mais en fait, ça a permis de tout condenser et là, j'ai l'impression d'avoir fait 4 ans en 2 ans, en fait. Enfin, tu vois, d'avoir gagné énormément de temps et d'expérience. Je suis pas sûr que ça soit bien d'attendre en fait d'avoir tout fini vraiment, etc. pour ensuite se former. Moi, je pense qu'on peut faire 2 formations en même temps. Là, tu vois, mes collègues et puis mes potes de promo, ils étaient pas forcément au courant que je faisais une formation, enfin que je suivais le campus. J'en ai dit à certains, mais voilà, ça se voyait pas sur moi, ça se voyait pas dans ma fatigue ou quoi. Enfin, j'arrivais à le gérer. Et au final, ça m'a permis de gagner du temps. Et surtout, c'est pas au moment où tu dois te lancer en free qu'il faut suivre une formation parce que tu vas perdre du temps, en fait. Parce que la formation est quand même longue, tu vois. Donc, du coup, tu vas regarder les vidéos pendant 3 mois, puis après, tu vas te lancer. Mais bon, pendant ces 3 mois-là, il y aura rien. Enfin, ouais, donc je dirais, en fait, bah, enfin, tu peux faire la reconversion et faire le campus en même temps. C'est tout à fait compatible. Sachant que le campus, bah, tu le fais à ton rythme. Moi, je l'ai étalé sur quasiment 1 an et demi. C'était un rythme de tortue, mais au moins, ça m'a permis d'au bout du compte, et ben, direct quand je me suis lancé, j'avais déjà toutes les clés en main et j'étais pas stressé, j'étais bien en fait. Du coup, j'avais une certaine maturité par rapport à ça. Mais mes potes de promo, ils m'ont tous dit, mais t'es fou, tu vas pas te lancer en freelance, tu te rends pas compte, nanana. Et ils m'ont mis un peu toutes les peurs, tous les trucs, tous les doutes en fait. Mais ces doutes-là, en fait, ça a été levé avec le campus. Donc moi, j'étais sûr de moi et je leur dis non, mais en fait, je vais me lancer. Je suis formé, je suis au taquet, je suis chaud patate.
Chaud patate. Et du coup,
Donc voilà.
est-ce que tu avais quand même du temps pour toi? Est-ce que tu as quand même pu faire des soirées, partir faire un
Ouais,
peu de
bah
rando et
oui.
tout pendant cette
Ouais,
transition?
bah. Je me suis pas empêché de vivre. Hein. J'ai quand même eu des week-ends de sacrifier, mais c'est plus par rapport à mon alternance parce que j'avais des rendus à faire, etc. Mais j'ai quand même fait des bonnes soirées. Bien bu, un peu trop parfois. Donc j'ai fait des bonnes soirées, ouais, je continue à faire mes randos, mes activités, mon sport, enfin, ça n'a pas trop changé, c'est juste que bah, mes journées étaient bien remplies, que le soir t'es bien fatigué. Mais voilà, après, puis, si t'as des journées où t'as pas envie de suivre la formation, t'as t'as pas envie de bosser, bah voilà, tu t'organises en fait. Mais ouais, ça m'a pas gâché la vie. Je me suis pas senti. C'est pas comme si je faisais une prépa, par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui font des prépas pour des grandes écoles et ils sacrifient carrément un an de leur vie. Ils dorment plus, ils vivent que pour ça, etc. Moi, je voulais pas de ça en fait. Je voulais vraiment garder quand même un équilibre perso, parce que c'est hyper important pour le moral en fait. Sinon, tu peux pas tenir dans le long terme, quoi. Et là, comme c'était une reconversion assez longue, parce que ça a mis quand même 2 ans et demi, bah, c'est hyper important quand même de garder du loisir. C'est possible.
Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait peut-être envie de rejoindre le campus et qui se dit je sais pas si c'est fait pour moi. Toi, est-ce que tu avais hésité par exemple à le rejoindre ou ça avait été direct, tu t'es dit j'y vais?
Moi, ça avait été assez clair parce que le secteur dans lequel vous êtes dans le campus, c'est le secteur dans lequel je suis. Enfin, ça matche bien. Si la reconversion est dans un secteur qui n'est pas forcément évident, enfin pas forcément dans le digital ou dans la créa, bah peut-être plus vous écrire en direct, en fait, vous poser la question, quoi, savoir si c'est adapté ou quoi. Mais non, bah après c'est une question de feeling. Moi, j'avais le feeling avec vous. Je vous trouvais cool, assez nature, direct et tout. Donc moi, ça me plaisait bien. Je pense que si on a le feeling et qu'on a l'envie foncièrement de changer sa vie, de se reconvertir, bah faut se lancer, quoi. Après, oui, c'est un investissement. Moi, je sais que en France, on a du mal à investir sur soi. Mais en fait, c'est hyper important, en fait. Il faut pas hésiter à investir sur soi-même parce que, bah, en fait, c'est sur. Enfin, ta vie, c'est toi, en fait. Tu vois, tu peux pas tout le temps vouloir du gratuit, tout le temps vouloir des formations, Pôle emploi, financées, etc. Bah, il y a un moment donné, voilà, si tu veux de la qualité, il faut aussi parfois payer, tu vois. Là, je me suis payé une formation à Paris, par exemple, sur un niveau plus élevé dans Figma, dans logiciel de maquettage. Bah, j'ai payé, je suis super content, tu vois, et j'ai rencontré des gens cool, ça a élargi mon réseau, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut investir dans soi, surtout à un moment où on est en reconversion pro, où on a plein de doutes, où on a plein de freins, où on sait pas, on est un peu paumé, etc. Bah, les trucs gratuits, je pense que ça fonctionne pas trop, quoi. Enfin, ou alors si, mais ça prend plus de temps, quoi. Tu fais tes propres expériences, tes propres erreurs, et voilà. Donc c'est soit en fait tu fais toi-même et t'acceptes le fait de te casser la figure et de te relever, etc. Enfin, de faire des erreurs, soit tu te fais accompagner et du coup bah il y a des grosses erreurs que tu ne feras pas, t'en feras quand même, mais pas des grosses ou des moins grosses quoi, et puis ça ira bien quoi.
Merci Nico pour tout ton partage d'histoire. Je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes qui sont en reconversion justement, qui ont peur de changer. T'as quand même un sacré beau parcours là. 2024 s'annonce plutôt bien pour toi. Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures? C'est quoi le meilleur moyen pour découvrir ce que tu fais?
Et ben sur YouTube, j'ai ma chaîne du coup UX Time et j'ai un Instagram aussi, UXU8-du-bas Nicolas Dumont.
Et sur LinkedIn.
Et sur LinkedIn du coup, ouais. Bon, c'est plus professionnel et je poste pas grand-chose, mais
On va mettre tous les liens dans la description pour pouvoir te retrouver. Et si jamais vous avez envie de participer à un prochain bootcamp comme Nico et trouver votre premier client, et puis c'était le bootcamp gratuit là pour le coup, les prochaines dates seront annoncées si vous inscrivez ci-dessous. Vous pourrez aussi récupérer le guide pour vous lancer en indépendant. Et il y a un petit quiz aussi pour savoir quel est votre profil de freelance et quelle est la route à suivre selon votre profil. Donc on va vous mettre tous les liens dans la description. Mais surtout, n'hésitez pas à aller voir le profil de Nico, suivre son parcours parce que je pense qu'il est assez inspirant. Ça va vous donner des ailes de voir que oui, tu peux changer de vie. Et oui, tu peux kiffer partir de moi en Thaïlande si tu veux ou au Portugal. Et que t'es pas obligé de rester coincé derrière un bureau. Donc merci
C'est
beaucoup
clair.
Nico d'avoir été avec nous. C'était vraiment chouette de découvrir toute ton histoire et tout ton parcours.
Bah, merci à toi, c'était cool.
Merci et à très vite sur le podcast des créateurs nomades.